Laissez-vous tenter exceptionnel ce matin. Catherine Deneuve est notre invitée. Bonjour Catherine Deneuve.
Bonjour.
J'ai envie de dire bonjour Votre Altesse, puisque vous incarnez une reine dans le film de Valérie Lemercier, Palais Royal. Vous êtes Eugénia, la souveraine d'un royaume à mi-chemin entre disons, Monaco et la couronne britannique. C'est pas la première fois que vous interprétez une reine au cinéma, mais celle-ci est quand même un petit peu particulière. C'est pas du tout la princesse de Peau d'Âne. Hein.
Non, c'est pas la princesse de Peau d'Âne, c'est une princesse d'aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que Valérie Lemercier voulait beaucoup que ça soit... Évidemment, elle, son personnage fait penser beaucoup à Lady Diana. Mais la reine Eugénia, c'était vraiment un mélange entre... Oui, un peu l'Angleterre, surtout dans sa façon de s'habiller, un peu un royaume fictif du Nord. Ça va quand même beaucoup vers Belgique, Hollande, tout ça.
Alors, c'est une comédie franchement débridée. On va en parler en détail avec Denis Girolami. On va aussi, selon le principe de cette émission, Catherine Deneuve, un peu mieux faire connaissance avec vous, grâce à Stéphane de Pasquale, qui est à côté de vous et qui a recueilli vos confidences. Vous allez également nous faire partager vos coups de cœur culturels du moment. Vous avez beaucoup aimé Pédigré, hein, de Patrick Modiano. Et puis, Bernard lui aussi aime bien ce bouquin, ça tombe bien.
Oui, oui.
Et puis, on évoquera aussi avec Anthony Martin un album qui vous a fait craquer, un album que j'aime beaucoup aussi, moi, qui est un album de Damien Reiss.
C'est cela, oui.
Hein,
oui.
Mais d'abord, Palais Royal, Denis Girolami, c'est l'histoire donc d'une petite orthophoniste que rien ne prédestinait à devenir princesse.
Elle s'appelle Armelle, c'est Valérie Lemercier, une fille toute simple avec un cœur d'or, mariée au prince Arnaud, un glandeur magnifique, désinvolte et coureur. Le prince Arnaud, c'est Lambert Wilson, il n'est pas destiné à régner, mais à la mort du roi, le premier de la lignée se révèle incapable d'avoir une descendance, alors Arnaud doit monter sur le trône. Seulement, voilà, Armelle découvre que son mec a une maîtresse, c'est Mathilde Seigné, elle décide de le lui faire payer très cher, la gourde se transforme alors en garce intégrale.
Garce, oui, c'est
et à ce moment-là, tout le monde se met à l'aimer. Et c'est vrai qu'on pense notamment à Diana.
Oui, enfin, c'est un raccourci. Mais enfin, c'est vrai qu'à partir du moment où elle a décidé de se venger, elle va utiliser tous les moyens, les petits et les grands, pour se venger de lui. Et surtout pour passer pour la personne qu'elle n'est pas. Parce que finalement, elle a vu son mari faire ça aussi. C'est-à-dire très cyniquement, comme ça, avoir l'air d'être très aimable en public, très gentil, et en vérité d'un cynisme et d'une désinvolture et d'une paresse dans la vie privée incroyable. Donc voilà, elle a pris un peu modèle sur lui et elle décide de devenir cette princesse charmante en apparence et totalement dénuée de tout scrupule dans sa vraie vie. Mais Lady Diana, c'est très difficile quand même de dire que c'est vraiment... C'est l'image, disons, extérieure que nous, on a eue à travers les journaux que Valérie Lemercier a pris parce que je crois que bon, c'est très peu de gens connaissent... La princesse Diana dans la vie intime.
En tout cas, le film montre bien l'ambiguïté du jeu médiatique.
Oui, c'est surtout, voilà, c'est surtout les relations, l'image qu'on a à travers les médias, la télévision et les journaux, l'utilisation que les uns ont fait des autres. Donc c'est surtout ça, l'image du personnage. Moi, c'est une reine très olé olé.
Alors on va en parler. En tout cas, le film est assez réaliste. Hein. Le trait n'est pas si exagéré que ça. Votre personnage, Eugénia, par exemple, est d'un cynisme incroyable, mais on comprend ses motivations. Au fond, elle tient à faire perdurer cette dynastie.
Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas très sympathique au départ. Moi, je trouve cette reine Eugénia. Mais de toute façon, le personnage de Valérie Lemercier devient tellement antipathique qu'à côté, la reine Eugénia a l'air d'être plutôt débonnaire, pragmatique et finalement, disons, une bonne fille quoi, qui essaye d'arranger un peu... tout le monde à n'importe quel prix et avec n'importe quel moyen. Alors là où c'est très habile, c'est qu'elle a elle a utilisé bon des choses d'aujourd'hui, un langage vraiment incroyable. Moi, je parle vraiment comme une chartière, c'est incroyable. Mais en même temps, elle tout le protocole, toute l'image du film, les costumes, les vêtements, dans la figuration, dans le choix de tout, on est dans un cadre parfaitement royal. Donc c'est encore plus drôle parce que le contraste est encore plus saisissant. C'est pas un petit film, hein, c'est un grand film comme ça avec tous les apparats de ce milieu. Donc c'est vrai que c'est assez drôle, on n'a pas l'habitude de voir traiter ça comme ça.
C'est vrai qu'elle vous fait dire des choses assez gratinées, je pense à cette réplique déjà culte. J'ai fait une série de paix, ça m'a détendu.
Il faut quand même
préciser qu'on parle de calligraphie, c'est important.
Bien sûr, c'est très important. La calligraphie comme la broderie dans la vie des femmes qui ne travaillent pas, c'est souvent une chose très très importante. Donc, c'est vrai.
Alors on va justement avoir un petit aperçu des relations que vous entretenez, que votre personnage entretient avec sa bru, avec le personnage de Valérie Lemercier dans le film, à travers ce petit extrait d'une bande-annonce.
Je ne veux pas la voir sur le balcon. J'ai décidé d'organiser une grande journée porte ouverte. Journée porte ouverte à la con. Comment ça nous emmerdait la cocu. Jamais personne n'avait encore osé s'attaquer à la famille royale.
Une révolte.
En tout cas, un grand bordel. Merci beaucoup. Salope.
On y est bien là. Hein.
Voilà. Tout est dit. Alors, tout le monde ne peut pas jouer les reines. C'est vrai que pour dire des choses comme ça aussi excessives, il faut une classe, une certaine élégance naturelle. Valérie Lemercier explique par exemple que quand vous arrivez sur le plateau, on entend les mouches voler comme ça. Alors, est-ce que vous savourez ces instants-là
ou au contraire? Oui. Bon, vous imaginez arriver sur un plateau où on sent, je veux dire, comme dans un restaurant, quand on arrive, où d'un seul coup le ton baisse, les gens chuchotent, murmurent. Non, franchement, heureusement que ça ne dure pas longtemps, mais ce n'est pas vraiment le moment que je préfère. Mais déjà, c'est vrai, quand on est une actrice un peu connue, quand on arrive comme ça sur un plateau, il y a comme ça quelques secondes, des fois quelques minutes avant d'arriver à ce que tout le monde retrouve comme ça ses marques et ses esprits par rapport à ce qu'on doit faire. Heureusement que tout le monde a quelque chose à faire sur un plateau. Mais quand en plus on joue la reine, donc on a tout de suite un ton comme ça assez autoritaire, avec quelqu'un qui dit non, pas question, enfin, très autoritaire même, cette reine Eugénia. Donc évidemment, ça augmente un petit peu encore la distance. Enfin, heureusement, ça ne dure pas longtemps, parce que ce serait très dur pour moi. Non, je ne savoure pas du tout ces moments-là.
Ce type de rôle, ça, justement, ça permet de briser un petit peu cette image de froideur qui continue de vous coller un petit peu à la peau?
Moins, beaucoup moins, franchement. Non, la froideur, c'est une chose qui m'a bien quittée comme ça depuis
15 jours.
Non, un peu plus. C'est une chose que j'entendais souvent avant, oui. La froideur, non, moi, je réponds toujours la même chose, parce que des jours, vous dites ça, toujours ça. Mais oui, mais on me pose la même question, je ne peux pas répondre quelque chose de différent. Je dis que je ne suis pas froide, je suis quelqu'un de réservé. Mais c'est vrai qu'autant j'aime l'intimité, autant je n'aime pas les familiarités. Oui, ça c'est vrai.
Est-ce que vous avez l'impression de faire aujourd'hui des choix de films plus audacieux qu'auparavant? Moi, je pense par exemple au Baiser torride avec Fanny Ardant dans 8 femmes. Il y a eu ce rôle d'alcoolique aussi dans Place Vendôme. Ce personnage outrancier de Belle Maman. Ce sont des films que vous n'auriez peut-être pas acceptés il y a quelques années?
Si, j'ai fait des choses quand même, franchement, je trouve qui... Quand j'ai fait ces films-là à l'époque, me semblait... Je ne sais pas, quand j'ai fait The Hunger, où j'embrasse aussi Susan Sarandon, où je joue un vampire, c'était quand même il y a beaucoup plus longtemps. Oui, quand je joue, je ne sais pas ce que... Mais si vous voulez, moi je trouve que c'est pas... on ne peut pas parler d'audace ou de... On dit toujours, mais vous faites des choix. C'est une nécessité pour un acteur ou pour une actrice, franchement, de faire des choix qui soient comme ça, des choix un peu forts, parce que sinon, y a un très grand danger à se retrouver dans une routine et d'être catalogué dans un certain genre de personnage. Déjà, moi, je suis quelqu'un d'un peu sophistiqué, donc le risque, c'est qu'on dit oui, grande, belle et blonde et machin, ça limite beaucoup quand même.
En tout cas, ce sont souvent des personnages très forts, presque masculins. Il y a la fameuse formule de Pardieu qui dit que vous êtes l'homme qu'il aurait aimé être. Gainsbourg disait que vous marchez comme un soldat. Mastroianni, vous traitez de Prussien.
De Prussienne.
ce côté viril, vous l'assumez très bien.
Mais je l'assume très bien, c'est-à-dire que d'abord, je pense que les femmes sont viriles, plus ou moins. On a toujours un côté quand même, de même que les hommes, je trouve un côté féminin. Et Gérard Depardieu, justement, qui est un acteur pour moi et un homme assez féminin, je pense que quand il parlait de... Il aurait aimé être l'homme que j'aimais, parce qu'il aimait la virilité de ma féminité. Donc c'est un peu comme moi, j'aime sa féminité. Et bah oui, la démarche de Prussienne, oui. Mais on marche comme ça dans la famille. Mes sœurs aussi marchent comme ça.
Alors Catherine Deneuve, on va maintenant continuer à faire un peu mieux connaissance avec vous. Stéphane de Pasquale a recueilli vos confidences.
Catherine Deneuve, votre enfance cadre avec un souvenir extrêmement précis, un objet. Ce n'est pas une poupée, mais pas loin. Non, c'est un petit baigneur que vous deviez recevoir le jour de vos 7 ans.
Ce baigneur m'a été donné par ma mère, qui était très malade. Qui était donc au plateau d'Assis, donc à la montagne. Elle était donc partie pour un certain temps. Elle avait acheté un baigneur et elle m'avait tricoté toute la garde-robe de ce baigneur. Et au moment où j'allais prendre donc ce baigneur qu'on me donnait, j'étais quand même assez petite, on m'a pris ce baigneur des mains et on a passé quelque chose dessus parce que ma mère étant contagieuse, on ne pouvait pas me donner ce baigneur directement. Et ce passage par cette poudre qui devait être une chose pour désinfecter, en effet, puisque c'était donc quand même le risque. Et bon, après, je me suis approprié ce poupon, évidemment, mais ça, c'est un souvenir très fort.
Adolescente, vous ne rêviez ni de Jean Harlow, ni de Cary Grant.
C'était plutôt les bandes dessinées, Mandrake le magicien, par exemple. Je crois que oui, ça, c'est un de mes héros. Mais je pense parce qu'aussi, je trouve qu'il ressemblait à mon père. C'était une idéalisation un peu de mon père physiquement. Donc ça, c'est une bande dessinée dont je me souviens très très bien.
Alors généralement, on se souvient plutôt bien et souvent des premières fois, mais vous, Catherine Deneuve, c'est une dernière fois qui vous a marqué. Ça a même été une délivrance, vous aviez 9 ans.
Je pourrais vous dire mon dernier biberon parce que j'étais très grande, ça je m'en souviens très bien. Mais c'était une chose assez difficile dont j'avais un peu honte parce que j'étais très grande. Que j'avais été assez malade un peu plus tôt et donc j'étais très surveillée et protégée par ma mère. et que je ne mangeais pas de viande, ce qui était un très gros problème. Et je me souviens avoir eu mon biberon très tard, car je devais manger du lait, enfin boire du lait plus exactement, mais je ne supportais pas le goût du lait. Et j'avais mon biberon en goûter, ce qui était quand même un peu délicat vis-à-vis des autres enfants.
Alors, Catherine Deneuve, vous avez chez vous, même avec vous, un cadeau qui ne vous quitte jamais.
Mais depuis quelques années, oui, c'est vrai, j'ai un mini oreiller qui n'est pas vraiment un oreiller puisqu'il est très très plat, qu'une très grande amie, très chère amie plutôt à moi, a fait. C'est-à-dire qu'elle m'a fait l'enveloppe de cet oreiller, et cet oreiller est comme une lettre. C'est-à-dire qu'elle m'a brodé l'enveloppe avec mon nom, mon adresse. Et cet oreiller, je ne peux pas dire vraiment que je le mets sous ma tête puisque c'est un oreiller assez petit et plat. Mais il faut que je touche et que j'ai cet oreiller quand je m'endors. En plus, il peut voyager parce qu'il est quand même assez petit. Et tout est brodé, mon nom, mon adresse, et même le timbre est brodé.
Alors après l'oreiller, allez, en 6 secondes, donc il y a l'oreiller, le réconfort, la peur brutale, incontrôlable.
Les insectes, une peur terrible. Particulièrement les papillons et les insectes rampants.
On dirait une pub pour Bégon. Hein. Catherine Deneuve, vous êtes vraiment appliquée. Vous avez écouté, vous avez persisté. En vain, vous n'avez jamais pu.
Plonger. Parce que la première fois que je suis baignée, moi, mes parents avaient une maison que j'adore, une petite maison qui est un ancien garage à bateaux en Seine-et-Marne au bord de l'eau. Nous avons toutes nagé dans ma famille très jeune, ce qui était pour l'époque quand même assez étrange. Mes sœurs nageaient très bien, ma sœur aînée plongeait merveilleusement bien. Et moi, mon père a essayé de m'apprendre à plonger et ça a été une catastrophe, une sinusite, enfin une douleur terrible. Et j'ai renoncé, mais avec beaucoup, beaucoup de regrets, il y a quelques années, à l'idée que je plongerais un jour. Je trouve terrible l'idée d'une chose qu'on ne sait pas faire, qu'on pourrait faire et qu'on sait qu'on a abandonné cette idée qu'on ne fera jamais.
Voilà, donc... Mais plonger sous-marine, en revanche.
Oui. Ouais. Je pense que c'est pour compenser, oui.
Alors après ces confidences, Catherine Deneuve, on va plonger, mais dans vos coups de cœur. Le premier, Bernard Lehu, c'est un livre d'un de nos plus grands écrivains.
Ben oui, Patrick Modiano, et vous avez choisi son dernier ouvrage, paru en début d'année, Pédigré. C'est sans doute son livre le plus personnel, oui. Puisqu'il évoque à la première personne son enfance, ses parents, Albert, le père, aux activités et aux fréquentations louches, Louisa, sa mère, une comédienne. Et alors, on se dit que ce dernier personnage a dû tout particulièrement vous intéresser, Catherine Deneuve.
Bien sûr, mais c'est surtout beaucoup par rapport à Patrick Modiano, qui tourne toujours autour de cette histoire et de cette grande mélancolie et de cette obsession qu'il a avec les lieux. Vraiment, je crois qu'il a des annuaires qui remontent à la nuit des temps. Enfin, chaque fois qu'il parle d'un personnage et qu'il le situe dans un endroit, dans un quartier, il a vraiment des fiches de renseignements absolument incroyables. Mais dans celui-là, c'est vrai que par rapport à son enfance, par rapport à lui, j'ai trouvé on ne peut pas dire qu'il se dévoile, parce que je trouve qu'un écrivain qui tourne toujours autour comme ça d'un thème se dévoile toujours beaucoup. Mais là, il dit vraiment très directement sa filiation, sa peur, ce sentiment qui est une réalité, je veux dire, d'avoir été abandonné. Je comprends encore mieux sa mélancolie d'aujourd'hui, parce que je crois que c'est une chose dont on ne se remet pas. Oui. Et je trouve qu'il a une façon de raconter son père et sa mère, en même temps avec une certaine indulgence. On comprend quand même quel genre de personne ils étaient, pourquoi ça s'est fait comme ça. Je pense que ça doit être très dur pour ses parents, enfin, surtout
oui,
pour sa mère aujourd'hui.
Le père, en même temps, c'est une ordure, hein, on peut le dire. À un moment donné, il va même aller dénoncer son fils à la police, le faire passer pour un voyou.
Oui, mais je pense que pour Patrick Modiano, je pense que d'avoir été aujourd'hui, d'avoir pu écrire ce livre-là seulement aujourd'hui, je pense que c'est... moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touché, ce livre.
Et alors l'homme, Patrick Modiano lui-même, est très attachant et plein d'humilité. Alors ça, c'est souvent la marque des plus grands. Je vous propose de l'écouter lors de l'une de nos rencontres chez lui, dans un quartier de Paris que vous connaissez bien, puisque c'est aussi le vôtre, du Modiano en VO, comme on l'aime.
C'est une sensation un peu désagréable chaque fois que le livre est fini, je repense à ce qu'il était dans ma tête au départ, et c'est comme si c'était une sorte de, comment dire, vous savez, ces petits arbres, des bonsaïs, enfin, c'est comme si c'était une réduction de ce que j'avais voulu faire, mais en même temps, ça pouvait pas être fait autrement, de toute façon, c'est donc que je suis débarrassé de ça, ça va me permettre de refaire, d'avoir le champ libre pour autre chose. Oui, c'est une insatisfaction perpétuelle, en fait.
Alors, les livres bonsaï de Patrick Modiano, que vous connaissez,
oui.
Catherine Deneuve.
J'ai même réussi à le convaincre, sans trop de difficultés, j'étais étonnée d'ailleurs, de jouer le rôle de mon frère dans un film de Raoul Ruiz. Oui, oui, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ses livres et j'aime beaucoup la personne aussi, je veux dire, je le trouve d'une pudeur incroyable en même temps. Et là, ce qui me frappe beaucoup, vous voyez, c'est que le problème à la radio comme à la télévision, mais c'est qu'il y a cette notion de temps qui passe et qu'il faudrait essayer de chercher le moins possible ces mots. Je sens qu'il fait un effort, parce que Patrick Modiano, on le sait, a un langage comme ça assez décousu. Alors, en apparence, mais comme ça, je sens qu'il fait un effort pour avoir un rythme plus juste, mais en même temps, il cherche quand même ses mots. Je veux dire, il hésite, il sait qu'un mot, après, c'est pas remplaçable. Une fois qu'on a dit ce mot-là, c'est fini, c'est parti, c'est donné, c'est... Ça me touche beaucoup, ça.
Il y a une vraie souffrance, je me souviens, lors de cet entretien, vraiment, on le sent qu'il fait un effort. Et à la fin, là aussi, nouvelle leçon d'humilité, il s'est excusé en me disant « J'espère que je n'ai pas été trop mauvais, vous pourrez en tirer quelque chose. » Voilà, c'est tout Patrick Modiano.
Tout Patrick Modiano de s'excuser.
Un pédigré, et là on peut dire royal, c'est publié chez Gallimard.
C'est un livre merveilleux, vraiment merveilleux.
Alors, deuxième coup de cœur, Catherine, musical maintenant. Vous avez choisi l'album d'un jeune artiste, il s'appelle Damien Rice, et vous avez craqué pour son album qui s'appelle O, la lettre O.
Oui, j'adore sa voix, j'adore ce genre de voix, c'est des voix, vous savez, c'est un peu comme Jeff Buckley, je veux dire, c'est des voix qui sont d'une intensité, je trouve qu'il y a quelque chose de très romanesque dans leur voix, on sent que ce sont des hommes qui se laissent aller justement à leur féminité, parce qu'il y a... Il y a des envolées incroyables et puis c'est des voix qui se cassent. Enfin, moi, c'est des voix qui m'émeuvent beaucoup, ça.
Oui, tout à fait. Un peu de calme et de finesse dans un monde de brutes. Oui, ça pourrait être le sous-titre de l'album.
Beaucoup, beaucoup de finesse.
Beaucoup de finesse. Oui. Il a 30 ans, Damien Rice, il est irlandais. Il a prouvé qu'on pouvait encore aujourd'hui, comme au bon vieux temps des années 70, faire un album de folk song, comme on appelle, c'est-à-dire juste avec une guitare, une voix, quelques caresses de cordes. Et le tout est un résultat délicieux. Je vous propose d'écouter un extrait. I'm not a miracle. Not a saint, just another soldier on a road to nowhere. Amy, come sit on my wall. Read me the story of old and tell it like you still believe. The end of century is a change for you and me. And Amy, come sit on my own. Voilà, extrait de l'album O, c'est la lettre O de Damien Rice. C'est un album hypnotisant.
O d'exclamation.
Hein. Voilà, O d'exclamation. On imagine écouter ça, vous écoutez ça quand? Le soir, tranquillement?
Oui, le soir. Mais moi, je trouve que le meilleur moment pour moi pour écouter de la musique, parce que le problème, c'est je trouve que j'ai soit à moins de se poser vraiment dans le canapé, de s'asseoir et de... On bouge tout le temps, je circule, ça m'énerve de ne pas entendre toute la... Donc j'écoute beaucoup en voiture.
Ah oui, c'est vrai que c'est un bon
endroit.
J'ai
une grande collection de disques dans ma voiture.
C'est un album qui est sorti discrètement. Il est d'ailleurs rangé dans les magasins de disques au rayon rock indépendant. Il fallait vraiment y tomber dessus pour l'aimer. Vous l'avez découvert comment, cet album?
Écoutez, je crois que j'en avais parlé avec mon gendre, Benjamin Biolay. Et en général, quand il me parle d'un disque ou quand je lis des choses aussi dans Les Inrocks, généralement, je prends des notes. Et,
Vous lisez Les Inrocks?
Oui, absolument.
C'est l'info.
Oui, bien sûr, je lis Les Inrocks, oui. Mais oui, j'adore découvrir comme ça des chanteurs ou des chanteuses, écouter de la musique comme ça.
Alors, tout le monde,
ça me plaît beaucoup.
Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais Benjamin Biolay, effectivement, est votre gendre. C'est le mari de Chiara Mastroianni.
Oui.
Auteur, compositeur, interprète, on en parle ici, de talent. Il représente un des talents de la nouvelle scène française. Alors,
moi, j'attends qu'il écrive un opéra. J'attends avec impatience qu'il prenne le temps d'écrire un opéra. Oui, parce que je trouve que c'est un arrangeur formidable. Je trouve qu'il a une connaissance musicale qui lui... Vraiment, il a tout à fait... Il a vraiment les possibilités pour le faire.
C'est pas moi qui vais vous contredire. Comme,
Donc, moi, à chaque fois que je le vois, je me dis, mais alors, quand est-ce que... Mais il faudrait prendre vraiment beaucoup de temps. Mais il y pense quand même.
On entend dire depuis quelques mois qu'il pourrait vous écrire un album. Qu'en est-il?
Mais oui, mais vous voyez, c'est une question de temps aussi. On en parle, mais bon, il travaille beaucoup.
Mais l'envie est là, la vôtre en tout cas, vous avez envie?
Oui, on l'a déjà évoqué, oui, c'est dans l'air. Mais l'air est vaste.
Alors Catherine Deneuve, vous parliez du temps, à la radio, à la télé, malheureusement ça va forcément toujours trop vite. Hein. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans Laissez-vous tenter sur RTL. On rappelle, Denis, ce film, le film de Valérie Lemercier, qui est sur les écrans après-demain, mercredi.
Un film drôle, cruel, cynique, totalement jubilatoire. On a cité tout à l'heure Lambert Wilson et Mathilde Seigné. Il ne faudrait pas oublier Michel Aumont, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, Gisèle Casadesus, Gilbert Melki et Morane. Morane aussi est à...
Non, mais c'est vrai qu'il
ne
faut pas les
film.
Oublier, parce que je trouve que une des grandes forces du film, je trouve, c'est ce mélange de personnalités comme ça, de cinéma et de théâtre différentes qui apporte chacun vraiment quelque chose, je trouve, de très fort au film. Oui.
Et vive la reine.
Et vive le...
Et vous.
Je ne sais plus ce qu'elle a dit quand elle a présenté le film. Allez, je crois qu'elle a dit et vive l'art dramatique. Elle a
dit et vive Catherine Deneuve. Merci d'être venue à Laissez-vous tenter. Merci Catherine.
Merci beaucoup.